Et pendant que les enfants nous quittent, je vous invite à trouver Actes chapitre 12 dans vos Bibles. Actes chapitre 12. Content de voir chacun ce matin, mais on est particulièrement content de revoir Franz et Sophia parmi nous, de retour de Roumanie après plusieurs semaines. On était très content aussi hier soir d'avoir Cassa parmi nous, donc après ce temps de maladie, donc on pouvait bien remercier le Seigneur pour sa grâce. On était aussi content hier soir d'avoir Bertin avec nous pendant le culte. Bertin donc qui a pu rendre témoignage hier que après grosso modo 7 années d'attente, donc ils ont fini par recevoir l'autorisation de rester au Luxembourg. Ils ont pu faire la demande pour un passeport. Pour tous les 7, et puis avec ça, ils vont recevoir les papiers officiels pour pouvoir rester, mais ils ont déjà la lettre leur disant qu'ils ont pu être accordés ce statut donc, au Luxembourg, pour rester au Luxembourg, et donc ils voulaient bien remercier toute l'Église qui a prié depuis longtemps pour sa situation, pour lui, pour sa famille. Et donc, on pouvait se réjouir avec eux du fait que tout a pu être mis en place pour que maintenant, ils puissent rester en situation normalisée ici au Luxembourg. On était donc content de pouvoir fêter cela avec lui, de remercier également tous ceux qui ont prié. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine qu'il a reçu cette décision. Et l'autre jour, quand il est venu me donner la bonne nouvelle, je lui ai dit que j'avais un petit peu l'impression qu'à la rencontre, nous étions en train de vivre notre propre version d'Actes chapitre 12. Parce que donc, Bertin venait tout sourire, tout content en disant « ça y est, les autorités nous ont donné les papiers qu'il faut, nous ont donné l'autorisation de rester au Luxembourg ». 2 jours après que j'avais eu un appel de Dagison tout triste en disant « en peu de temps, toutes les tentatives ont été essayées et rejetées, tous les recours ont été rejetés et j'ai reçu l'ordre qu'il va falloir quitter le territoire luxembourgeois. » Là aussi, je dis merci à tous ceux qui ont prié pour sa situation. Vous savez, depuis quelque temps, dans les sujets de prière, chaque semaine, c'était marqué « Prions pour que la situation de Dagison et la situation de Bertin se règle rapidement. » Alors la Bible nous dit que Dieu a sa propre notion du temps. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Bertin a attendu 7 années d'avoir une réponse positive. Dagison a dû attendre quelques mois pour recevoir l'ordre de partir. Parfois, nous faisons face à des situations dans la vie qui sont difficiles à comprendre. On ne sait pas pourquoi telle chose fonctionne chez l'un et que chez l'autre, c'est complètement autre. Les deux sont passés par le même processus, dans le même pays, avec les mêmes personnes qui ont prié pour eux, mais les deux résultats sont complètement opposés l'un à l'autre. C'est ça justement qui m'a fait penser à Actes chapitre 12. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais nous allons de toute façon le lire ensemble ce matin. Acte chapitre 12, à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant Dieu. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main, fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères !» Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. C'est un passage très intéressant, n'est-ce pas? Acte chapitre 12. Alors, si, comme moi, vous êtes allé à l'église depuis votre tendre enfance, vous connaissez sans doute par cœur cette histoire de la libération de Pierre de prison avec l'église qui priait, l'ange qui est venu, qui a ouvert la prison, a fait sortir Pierre, et Pierre donc qui a été libéré pour retourner à l'église et continuer son œuvre pour le Seigneur. C'est important de lire, de connaître, de relire de telles histoires, de voir ces miracles de Dieu. Et c'est sans doute pour cela que si Jacques ne reçoit que 1 à 2 versets, il y a presque le demi-chapitre qui parle de la libération de Pierre, parce que finalement, notre nature humaine a souvent besoin d'être rappelé que Dieu est capable de faire des miracles, que Dieu est capable d'ouvrir les portes de la prison. On n'a pas du mal à imaginer Jacques en train d'être exécuté par le roi Hérode. On a beaucoup plus du mal à imaginer Dieu en train d'ouvrir une prison pour faire sortir de Pierre d'entre toutes les gardes. Pas besoin de se culpabiliser, ça s'appelle être humain, puisque finalement, ni l'église de Jérusalem, ni Pierre lui-même y croyait vraiment à ce moment-là. Même Pierre croyait juste voir une vision, C'était uniquement lorsqu'il était dehors, en train de respirer l'air frais, tout seul, qu'il s'est rendu compte. Mais Dieu a réellement fait sortir de prison. Mais on connaît bien donc cette partie-là de l'histoire. Mais il est aussi important de se rappeler le contexte, se rappeler ce qui vient juste avant l'histoire de la libération miraculeuse de Pierre. Le fait que Jacques a été arrêté par le même roi Hérode, sans doute s'est trouvé dans la même prison, mais n'est pas sorti de cette prison conduit par un ange. Il a été exécuté dans sa captivité. Alors, ce Jacques-là, ce n'est pas l'auteur de l'épître de Jacques, on trouve plus loin dans nos Bibles, ce n'est pas non plus le Jacques qui se trouve ici à la fin de ce passage, dans le verset 17, là, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui était donc responsable de l'église de Jérusalem pendant des années. Ce Jacques, qui se trouve au début du chapitre, n'était pas le premier martyr pour la foi, n'était pas le premier à être mis à mort pour suivre Jésus. Il y a déjà eu l'histoire d'Étienne, il y a déjà eu tous ceux que Saul de Tarse, avant d'être transformé par Dieu en apôtre Paul, est allé même prendre de leur maison pour les emmener à cause de leur foi. Mais ce Jacques, au début du chapitre 12 des Actes, est sans doute le martyr avec le plus haut profil depuis la mort de Jésus lui-même. Parce que ce Jacques-là, le frère de Jean, était au cœur du ministère de Jésus, au cœur de la vie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, nous avons l'histoire de l'appel des premiers disciples. Donc Jésus qui se promène sur la plage, qui voit des pêcheurs en train de réparer leurs filets dans leur bateau, qui appelle Simon et André, qui appelle également Jacques et Jean. Matthieu 10, verset 2 nous dit « Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. » Donc dans les 12 apôtres, nous trouvons Jacques. Et ce n'était même pas le moindre des 12 apôtres. Jacques était au cœur de tout ce que vivait Jésus. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Donc, non seulement ce Jacques était parmi les 12 apôtres, il était même parmi les 3 les plus proches de Jésus, que Jésus emmenait avec lui pour des moments clés de son ministère. Par exemple, lorsqu'il fut transfiguré sur la montagne. Ou Luc chapitre 8, verset 51, qui parle de la résurrection de la fille de Jaïrus. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Et puis à nouveau dans Marc chapitre 14, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Donc Jacques avait été avec Jésus depuis le début de son ministère. Il était au cœur de son ministère. Il avait vécu des choses incroyables aux côtés de Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui était loin du Seigneur. Il était un des amis les plus proches de Jésus. Difficile à croire aussi que ce qui est relaté dans le verset 5 au moment de l'arrestation de Pierre ne s'appliquait pas également lors de l'arrestation de Jacques. Verset 5, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je ne pense pas que c'était uniquement au moment où Pierre s'est fait arrêter et que l'Église s'est dit « Oh mince !» On savait qu'on avait oublié quelque chose au moment où ils ont arrêté Jacques. On avait oublié de prier. Je suis assez sûr que déjà pour Jacques, ils avaient prié. L'Église avait prié pour les deux. Les deux étaient parmi les disciples les plus importants, les mieux aimés de Jésus. Pourtant, Pierre est libéré miraculeusement de la prison. Jacques est mis à mort. En plus, quand on regarde, tous les deux, Pierre et Jacques, avaient reçu des paroles similaires de la part du Seigneur Jésus quant à leur avenir. Dans Marc, chapitre 10, verset 35, nous lisons que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? « Nous le pouvons, » dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Donc, Jésus prévenait déjà Jacques comme Jean de ce qui leur arriverait plus tard. En Jean 21, c'était au tour de Pierre. Dans cette discussion entre Pierre et Jésus après la résurrection, lorsque Jésus montre à Pierre qu'il lui pardonne le fait de l'avoir abandonné, Jean 21, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Donc finalement, leur situation était vraiment parallèle. Deux disciples parmi les douze, parmi le groupe le plus rapproché de Jésus, tous les deux ayant reçu une parole que plus tard, ils devraient mourir pour le Seigneur, tous les deux faisant partie d'une église remplie du Saint-Esprit, puissante, qui bouleversait toute la société de Jérusalem. Pourtant, Pierre est sauvé par miracle suite aux prières de l'église, mais Jacques est exécuté. Pourtant, il n'y a pas de différence dans l'histoire jusqu'à ce moment-là. Rien qui expliquerait, humainement parlant, qu'il y ait une différence dans le résultat. Seule explication possible, donc, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Pour certains, ça peut être une notion choquante que l'Église est priée, que ces hommes étaient remplis de l'Esprit, qu'ils étaient des collaborateurs proches de Jésus et que Dieu fasse donne des réponses différentes à l'un comme à l'autre à ce moment-là. Certains sont choqués parce qu'ils disent « Ah ben, il suffit d'avoir la foi, il suffit de créer suffisamment de foi, d'y penser suffisamment fort et Dieu sera obligé de faire ce que tu lui demandes. » Il suffit de visualiser la chose et Dieu sera obligé de le faire. Ou il suffit de le dire et Dieu sera obligé de le faire. Mais ces pensées-là, ces attitudes-là ne correspondent pas à ce que nous voyons dans la Bible, ni en ce qui concerne l'expérience de l'Église, ni même en ce qui concerne l'expérience de Jésus. Marc, chapitre 14, verset 36, nous montre que Jésus lui-même, parfois, a entendu non de la part de son Père lorsqu'il a prié. Marc 14, verset 36, Jésus disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. » Intéressant de voir Jésus dans sa prière. Il souligne premièrement son intimité avec le Père. Abba, Père, il n'y avait rien, aucun obstacle à leur relation d'amour l'un avec l'autre. Abba, Père, il n'y avait pas non plus de limitation dans la foi de Jésus. Toutes choses te sont possibles. Il souligne son intimité. Il souligne le fait qu'il croit que son Père peut tout. Donc il prie, éloigne de moi cette coupe. Nous savons très bien qu'à cette requête, le Père a dit non. Je ne vais pas éloigner cette coupe. Le Père, par contre, a exaucé la deuxième partie de la prière de Jésus dans Marc 14. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le Père a dit, ça, je vais exaucer. Je vais faire ce que je veux. Alors, on est sûr qu'avec Jésus, il n'y avait pas de manque de foi, n'est-ce pas? Toutes choses te sont possibles et de toute façon, Romains 14, verset 23 nous dit que tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Mais Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Donc, le fait de reconnaître que finalement, Dieu n'était pas obligé de faire ce que lui, il avait envie que le Père fasse, et que le Père pouvait faire ce qu'il voulait, n'était pas manque de foi parce que Jésus est sans péché. Et pourtant, lorsqu'il dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe », le Père dit non. Jésus, dans cette deuxième partie de sa prière, reconnaît la réalité importante que Dieu rappelle à son peuple à plusieurs reprises dans la Bible, que Dieu reste toujours souverain sur tout. Il fait ce que lui, il a décidé de faire. Il est Dieu au-dessus de la terre. Il est Dieu au-dessus de l'être humain et non pas l'inverse. C'est lui qui est souverain et non pas nous. Ésaïe 55, par exemple, versets 8 et 9. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes des êtres humains. Nos pensées sont des pensées humaines. Et parfois, Dieu dit, c'est très bien, mais ça ne colle pas avec mon projet. et c'est moi qui est souverain. Donc je fais ce que j'estime, moi, être nécessaire pour la réalisation de mes projets. Parfois, nos pensées sont mauvaises, parfois, nos pensées ne sont pas mauvaises, mais simplement humaines. Pensons à la réaction des disciples régulièrement lorsque Jésus leur disait qu'il allait falloir qu'ils souffrent et qu'ils meurent. Oh non, Seigneur, on ne peut pas permettre ça. Sur le plan humain, c'était tout à fait compréhensible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous aurions dit si Jésus nous avait dit « Il va falloir que je sois arrêté, que je sois maltraité et que je sois cloué à une croix » Est-ce que vous, humainement parlant, vous laisserez votre ami subir cela sans rien dire, sans intervenir? Et pourtant, lorsque Pierre, la première fois, réagit de la sorte, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées toutes humaines et ne sont pas les pensées de Dieu. » Tout à fait compréhensible sur le plan humain. Mais Seigneur, c'est inimaginable une telle chose. On ne peut pas te laisser mourir sur une croix sans intervenir. Mais Jésus dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc parfois, Dieu dit, moi je vais agir parce que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Moi je sais toutes choses, pas vous. C'est important de se le rappeler, surtout lorsque Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas ou que Dieu n'est pas d'accord avec notre manière de penser qu'il devrait faire les choses. Nous voyons dans l'histoire de Job que lorsque Dieu et Job avaient deux visions différentes de comment la vie de Job devait se dérouler, Dieu disait à Job, « Rappelle-toi qui est Dieu et qui ne l'est pas. » Il dit à Job, « Rappelle-moi, où étais-tu le jour où j'ai créé l'univers, où j'ai mis les étoiles en place ?» Si tu peux me l'expliquer, alors là, on va s'asseoir et on va discuter. Si par contre, tu n'y étais pas, tu n'as rien à m'apprendre, tu n'as rien à me dire. Il dit à Job, est-ce que toi, tu es capable de dompter les monstres marins comme moi, je le suis? Si oui, très bien, tu es mon égal, on va discuter. Sinon, tu n'as rien à dire. Tu dois accepter que je suis Dieu, que je suis souverain. On le voit également dans Romains chapitre 9, dans l'enseignement de Paul. Romains 9, à partir du verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Réponse de Paul. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Autrement dit, les petits pots que Sandra vient de nous montrer n'ont pas le droit de se retourner vers les enfants qui l'ont fait en disant, mais pourquoi tu as collé telle chose à tel endroit? Pourquoi tu as décidé d'utiliser telle couleur? L'enfant qui l'a fabriqué a décidé, à un point, c'est tout. Dieu dit, mais tu te prends pour qui de questionner ce que je décide de faire? C'est qui Dieu? C'est toi ou c'est moi? dans notre société humaniste, où finalement nous avons reçu une éducation où tout est basé sur et autour et pour l'être humain, c'est un principe qui est parfois difficile à avaler. Mais Dieu nous dit, je suis désolé, mais vous n'êtes pas Dieu. Je suis Dieu, je suis souverain, soit vous respectez, mais moi mon conseil c'est d'accepter le fait que moi, je suis Dieu. C'était donc la seule réponse de Dieu de dire à Job, mais rappelle-toi qui je suis. Mais finalement, si le seul élément à prendre en compte, si la seule réponse de Dieu devant des situations que nous ne comprenons pas, ou devant les moments où Dieu est obligé de nous dire non, c'était simplement de dire, bon maintenant, tu te tais, puisque moi je suis souverain, ce serait, je pense, une vision assez terrible, n'est-ce pas ? Qui ne donnerait pas de très belle image de Dieu, et qui, finalement, certes, nous pousserait à accepter, mais d'une manière assez déprimée et assez remuée contre ce Dieu qui agit comme le simple destin, en faisant juste ce que lui, il veut. La Bible nous dit, d'une part, que certes, dans de tels moments, il est important de se rappeler que Dieu est souverain parce qu'il est Dieu. Mais il est aussi important de se rappeler que ce Dieu souverain est aussi notre Père. Amen. Qui nous aime. Il n'est pas simplement une force impersonnelle qui dirige les événements sans s'impliquer, sans ressentir quoi que ce soit devant les réalités de la vie. Il ne se garde pas à distance. Il est en même temps le Dieu d'amour qui désire être notre Père. Donc, en tant que Dieu souverain, il n'a pas besoin de se justifier auprès de nous de ses décisions. Il n'a pas besoin de nous expliquer tout ce qu'il fait. Mais en tant que notre Père qui nous aime, il nous demande plutôt de lui faire confiance. Il dit souvent, je ne vais pas tout expliquer, parce que de toute façon, si j'essayais de tout expliquer avec tes limitations, ton cerveau finirait par disjoncter. Mais fais-moi confiance dans ce que je fais. Pour l'instant, peut-être tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance. Comme parfois, en tant qu'enfant, on doit faire confiance à nos parents, croire que nos parents agissent parce qu'ils savent mieux, parce qu'ils nous aiment, et non pas simplement parce qu'ils veulent nous embêter. Dieu dit, fais-moi confiance, crois que je suis ton Père qui t'aime, et que si je fais quelque chose que tu ne comprends pas, avec lequel pour l'instant tu n'es pas d'accord, fais-moi confiance que je t'aime et je le fais par amour. En Matthieu chapitre 7 verset 11, Jésus disait, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Votre Père qui est dans les cieux donne de bonnes choses. Parfois, nous en sommes capables, vu nos limitations, vu la bêtise de l'être humain, nous sommes capables de lui demander des choses qui nous semblent bonnes mais qui ne le sont pas. Et donc, Dieu, en tant que Père qui nous aime, utilise sa souveraineté pour nous dire non. Je ne vais pas le faire. Parce que tu es mon fils, tu es ma fille et je t'aime. Donc même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous pouvons avoir l'assurance qu'il fait ce qu'il fait, qu'il utilise sa souveraineté parce qu'il nous aime. Hébreux 12, verset 7 nous dit « C'est comme des fils que Dieu vous traite. » Bon, l'auteur aux Hébreux prend pour acquis que si nous sommes entrés en relation avec Dieu, si nous appelons Dieu notre Père, nous avons envie d'être traités comme des enfants. Nous avons envie d'être traités comme des fils. J'espère que nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ pour nous approcher du Père, nous voudrions être traités comme fils. Nous voudrions connaître l'amour de notre Père. Nous voudrions être avec lui. Nous voudrions être fils et donc héritiers, comme dit l'apôtre Paul. Alors il dit, fais-moi confiance. Lorsque j'agis de la sorte, c'est comme des fils que je vous traite. Romains chapitre 8, verset 28-29 d'ailleurs nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc il dit, fais-moi confiance que ce que je fais, même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque je suis obligé de vous frustrer en disant non à certaines choses, c'est comme des fils que je vous traite, parce que mon objectif, mon but pour lequel je mets tout mon ma souveraineté en jeu, c'est de vous rendre semblable à l'image de Jésus. Mais vous savez, même à Jésus, il ne dit pas tout. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que le Père dit à Jésus, je ne te le dis pas. Donc, si nous voulons que le Père nous traite en tant que fils pour être semblable à Jésus, pourquoi Dieu devrait-il nous dire tout, justifier tout, nous expliquer tout, alors qu'il ne le fait pas pour Jésus? C'est comme des fils qu'il nous traite. Et même si on revient à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané, cette prière où le Père a dit non, lorsque Jésus a demandé « Éloigne de moi cette coupe », même là, c'était par amour que le Père, dans sa souveraineté, a dit non, je ne vais pas t'enlever cette coupe. La pensée humaine des disciples, c'était « Il faut enlever cette coupe, tu ne peux pas permettre à Jésus de souffrir de la sorte et d'aller jusqu'à la croix. » Le Père, parce qu'il voyait son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son approbation, il lui dit, « Parce que je t'aime, je te dis non. Parce que je t'aime, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. Parce que tu m'aimes, je vais faire non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Parce que si le Père était intervenu, si le Père avait répondu au désir de Jésus d'être épargné cette coupe sur la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Jésus serait resté dans un corps humain qui prenait de l'âge, et qui tôt ou tard mourrait sans être le sacrifice. Donc le Père a dit, je suis ton Père, je t'aime, je veux le mieux pour toi, donc je te laisse avaler cette coupe. Je te laisse aller à la croix, parce que sans la croix, pas de résurrection. Sans la croix, pas de perfection. Puisque l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a fallu que Jésus soit emmené à la perfection par la souffrance. Sans la croix, Jésus n'aurait pas reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom et cette autorité que le Père lui a donnée. Parce que nous dit la Bible dans Philippiens chapitre 2, c'est puisque Jésus a obéi jusqu'à la mort que le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit plié et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même si c'était difficile même pour le Père, puisqu'il aimait son fils, puisqu'il voulait le mieux pour son fils, il était obligé d'appliquer sa souveraineté et dire non, je ne vais pas t'enlever cette coupe. Si Dieu était intervenu et avait exaucé cette prière, il n'y aurait pas non plus d'épouse pour son fils. Cette épouse que l'époux va venir chercher pour être avec lui éternellement n'existerait pas si le Père n'avait pas appliqué sa souveraineté dans son amour pour son fils. Lui, il voulait le mieux pour son fils. Il dit, je veux que tu puisses avoir cette épouse belle, préparée pour son époux, pour l'éternité. Amen. Mais le seul chemin pour avoir cette épouse, c'est d'aller jusqu'au bout du plan du salut. C'est de mourir sur la croix pour que ces gens puissent être sauvés. Si Jésus n'était pas allé à la croix, nous aujourd'hui, on ne pourrait pas être là. On ne pourrait pas être dans la présence de Dieu. On ne pourrait pas être sauvés. On ne pourrait pas avoir cette espérance de la vie éternelle. On ne ferait pas partie de l'Église et donc il n'y aurait pas d'épouse pour Jésus, notre époux. Le Père étant souverain, étant Dieu, savait que c'était le seul moyen de rendre cela possible. C'était le seul moyen pour son fils d'avoir cette épouse pour l'éternité. C'était le seul moyen pour son fils de recevoir l'autorité, de recevoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom et être assis sur le trône. C'était le seul moyen pour son fils d'atteindre la perfection. C'était le seul moyen pour son fils d'être ressuscité d'entre les morts, les prémices de tous ceux de cette nouvelle création. Alors quel était l'acte le plus empreint d'amour ? De dire à ton fils, bon d'accord, je te donne ce que tu veux, ou de dire, bah non, je fais ce que je veux, et non pas ce que tu veux, parce que je t'aime, parce que je suis ton père. Donc lorsque, même en étant des chrétiens fondés dans la foi, proches du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, les choses ne se passent pas toujours dans la vie comme on aurait espéré. Lorsque des choses nous arrivent qu'on ne comprend pas, ne doutons pas ni de la souveraineté de Dieu, ni de l'amour de Dieu. Parfois, l'ennemi va essayer de profiter de cette situation pour nous dire, tu vois que Dieu n'est pas tout-puissant. Si Dieu était réellement tout-puissant, il aurait pu empêcher cela. Ah oui, il aurait pu. Père, toutes choses te sont possibles. Tu peux m'éloigner cette coupe. Dieu est souverain. Lui, il fait ce qu'il veut. Nous devons donc faire confiance que lui, il est souverain, mais nous devons aussi faire confiance que s'il a décidé telle chose, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut le mieux pour nous. Et il sait ce qu'il fait. Il pourrait faire autrement. Mais il veut le mieux pour nous, puisqu'il nous aime. Donc ne doutons pas dans ces moments-là. Ne craignons pas que les choses soient hors de contrôle. Parce que Dieu est souverain. Dieu est et restera toujours Dieu. Et Dieu sera pour toujours ce Père qui nous aime. Donc ne permettons pas dans ces moments-là au découragement de s'installer en nous. Mais mettons en pratique notre confiance dans le Dieu souverain qui est en plus notre Père dans les cieux qui nous aime. Dans ces moments-là, prions pour rester près de Dieu. Peut-être il nous expliquera ce qu'il fait. Peut-être il nous demandera tout simplement de lui faire confiance sans explication, en disant « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as besoin de me faire confiance. » Prions donc, restons près de lui, croyons qu'il est souverain en tout temps, en toute situation, et croyant qu'il est notre Père, qui nous aime au point d'avoir donné Jésus pour nous. Paul dit dans Romains 8, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses ?» Peut-être nous ne comprendrons pas toujours pourquoi nous avons besoin de telles choses. Peut-être à notre chair, à notre pensée humaine, ça ne nous semblerait pas être la meilleure chose. Mais nous pouvons faire confiance à notre Père. Il est souverain, mais il est notre Père qui nous aime et qui emploiera sa souveraineté dans notre intérêt au long terme, éternellement. Je propose qu'on prie.